Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode de So Sweet Planet, j'accueille une chanteuse, auteure, compositrice dont le dernier album m'a complètement enthousiasmée. J'ai adoré cet album. Et ce magnifique album, c'est Tissé, dont les 11 titres ont été écrits et composés par Marion Rampal. Bonjour Marion.
Bonjour.
Bienvenue sur So Sweet Planet. Est-ce que l'on peut avoir quelques mots? Je sais que tu en as déjà parlé, mais pour nos auditrices et auditeurs qui peut-être n'auraient pas encore la chance de te connaître. Donc, est-ce que l'on peut avoir quelques mots du berceau de Marion Rampal? Quelles sont les musiques, les faits peut-être qui t'ont entourée lorsque tu étais enfant et quelles ont été tes premières émotions musicales?
Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de faits qui se sont penchés sur mon berceau. Y en a une hein, que je peux tenir comme pour une fée de la musique, c'était ma maman. J'ai la chance d'avoir une maman qui chante très bien et qui adorait plein de musiques, notamment Michel Legrand, aussi les musiques brésiliennes, qui venait d'une famille aussi, vient d'une famille très musicienne. Mm-hmm. Un arrière-grand-père pianiste, un grand-père qui jouait du piano jazz. Donc elle m'a inventé des chansons quand j'étais tout bébé. Et puis après, dans l'enfance. Et c'est vrai que j'ai beaucoup entendu chanter. Je pense que ça m'a énormément à la fois marquée et à la fois influencée.
Oui.
Et puis, je crois que les musiques qu'on écoutait chez moi, que ce soit dans la famille de ma mère, donc plutôt du jazz, du classique, ou dans la famille de mon père, où on écoutait aussi du folk. J'avais une grand-mère qui écoutait, qui était fan de John Baez, et puis aussi des grands quatuors vocaux noirs américains, comme les Platters. J'écoutais Harry Belafonte aussi avec mes tantes. Donc ça, c'est des musiques qui m'ont beaucoup, beaucoup marquée.
Il y a encore des bonnes musiques déjà.
Oui, des bonnes musiques et puis des belles voix. Il y a encore 5 ans, c'est des musiques que je n'aurais pas citées naturellement parce que je pense que comme moi, j'ai après fait un détour dès l'adolescence vers la folk américaine et puis le rock et d'autres formes. Après, même quand je me suis mise à étudier le jazz, je me suis intéressée à des artistes que je n'écoutais pas chez moi. Par exemple, on n'écoutait pas Miles Davis chez moi. J'écoutais Coltrane depuis très longtemps, mais on ne connaissait pas forcément la musique de Miles Davis ou des choses très conceptuelles ou très cool jazz. Donc maintenant, je refais un retour à ses premières amours et à ses premières émotions musicales. J'ai même tendance à les rechercher énormément et puis à essayer de les faire se rencontrer avec d'autres musiques, d'autres cultures venues d'ailleurs, mais qui font écho en fait à mon enfance.
D'accord. Alors à quel moment la musique a-t-elle commencé à prendre plus de place dans ta vie? Plus de place qu'une enfant ou une ado qui écoute juste de la musique comme ça?
À la fin de l'adolescence. Moi, j'étais dans un lycée où il y avait une très bonne chorale. Alors, je chantais pas mal. J'étais soliste de la chorale. J'écrivais déjà quelques chansons, des rudiments de chansons avec une guitare. Et puis, alors, j'essayais de trouver des groupes dans lesquels chanter. Alors, c'était pas évident de faire des rencontres de musiciens. Donc, j'ai eu plein de petits groupes comme ça à Marseille. Et puis, l'année du bac, donc l'été du bac, j'ai rencontré des anciens de mon lycée qu'on avait quelques années d'écart. Et là, on s'est mis à... On a fait un bœuf, je crois, chez une prof commune. Et puis, on ne s'est plus quitté de l'été. Et on passait beaucoup de temps à improviser et à écrire. Et en fait, on a monté un groupe comme ça. Donc ça a été ma première expérience vraiment de groupe.
Où vous chantiez,
où j'écrivais des morceaux.
Oui, c'est ça, parce que souvent, c'est des groupes de reprise
Entre 18 et 22 ans. Non, c'était vraiment de la création. Et puis, on a fait des jolis concerts autour de... Bah, alors, je suis née à Marseille, donc on était plutôt du côté de Marseille.
On va en parler, oui.
Et ça a été une expérience très forte, ce groupe qui s'appelait Wesh Wesh. Et ça m'a accompagnée un bon moment.
Et c'était plutôt rock, ça, je crois.
C'était rock, mais avec une guitare électroacoustique 12 cordes. Donc, un peu vrai. Orientalisant oui. aussi.
Avec un côté Led Zepp, non ?
Un côté très Led Zepp, ouais.
Bon, mais c'est des belles références, tout ça. Et tu as appris à jouer des instruments ?
J'ai fait de la flûte traversière dans mon enfance. Alors, quand on s'appelle Marion Rampal, c'est pas évident de débarquer au Conservatoire de Marseille en s'appelant Marion et Rampal. Hein. C'est les deux noms des plus grands flûtistes français, Alain Marion, Jean-Pierre Rampal.
Oui, ça faisait de la pression déjà.
On me demande toujours, est-ce que vous êtes de la famille de... Alors non, je suis pas de la famille de Jean-Pierre Rampal. On est Marseillais tous les deux, mais on n'a pas de, voilà, pas de racines familiales communes. Et j'ai fait un peu de piano. En fait, j'ai assez vite lâché tout ça, vers 12 ans. Après, je me suis donc plutôt mise au chant, mais en amateur, hein, dans des chorales et tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à rentrer à l'école de jazz, l'école de Salon de Provence, que j'ai fait entre, je crois, 22 et 24 ans, quelque chose comme ça, j'avais vraiment laissé de côté tout ce qui était théorie musicale, écrire des notes, faire des dictées. Mais bon, ça restait un peu présent, quoi. Donc je ne suis pas quelqu'un qui lit, par exemple, couramment la musique. J'ai besoin de me mettre à un piano ou d'avoir vraiment une feuille sous les yeux pour analyser une mélodie, etc. Je ne suis pas, je sais pas comment on dit « school » en anglais, hein, bien éduqué. Mais bon, j'ai appris quand même plein de choses au fur et à mesure, quoi.
Et qu'est-ce qui fait que de Wesh Wesh, qui est plutôt rock, tu passes à une école de jazz ?
Très étrange, il y avait cette idée que moi j'avais une voix pour le jazz, c'était quelque chose qu'on me disait dans ma famille, et puis je chantais des standards avec mon grand-père. Il y avait beaucoup de tout un corpus de chansons américaines que je connaissais très bien, même en entrant à l'école de jazz. Alors j'étais étonnée parce que personne ne les jouait, c'est-à-dire que les instrumentistes de jazz, ils avaient d'autres un autre catéchisme que moi, quoi. Et pourtant ça me faisait quand même une culture, quoi, mélodique, harmonique, qui était importante, qui faisait partie de mon bagage. Et je crois aussi que lorsque je suis rentrée dans cette école, moi qui avais eu des difficultés en fait avec les études supérieures, hein, sortie du bac, c'était difficile de trouver ma voie, de trouver quelque chose qui me plaise. J'avais envie de faire du spectacle en fait, mais du théâtre ou de la musique, mais pour mes parents ou mon milieu, c'était pas évident à défendre en fait.
Oui,
sauf à être dans l'excellence, hein, dans les grands conservatoires ou d'avoir fait du chant lyrique. Enfin, il y avait cette idée un peu. Un peu fermé en fait, hein, sur ce que pouvait être un métier du spectacle vivant. Et donc là, en entrant dans des études de jazz, bah, tout de suite, je crois que ça a mis un peu tout le monde d'accord, c'est-à-dire que ça paraissait comme quelque chose de plus sérieux. J'ai très vite travaillé aussi, ça m'a très vite donné un métier en fait. C'est-à-dire à 23 ans, j'étais indépendante et je faisais des concerts. Et donc c'était il y a presque 20 ans maintenant, et voilà. Après, le jazz et puis la chanson, enfin le rock, pendant très longtemps, chez moi, ça a été pensé comme un peu un espèce de choc. C'était l'un ou l'autre, c'était l'un sans l'autre, l'un puis l'autre.
C'était pas compatible.
Et dans mes disques, dès mon premier disque de composition, moi, j'essayais d'un peu rejoindre ces choses-là. Et c'est encore ce que je fais, je pense, parce que j'essaye de garder des choses du jazz, l'ouverture au son, au rythme, une certaine souplesse dans les formats, ça, c'est très important pour moi. Mm-hmm.
Des instruments aussi.
Et des instruments, bien sûr. La contrebasse, il y a des choses auxquelles je suis attachée. Les cuivres aussi.
Donc, la question suivante, c'était, tu es originaire d'où ? Donc, tu as déjà répondu. Est-ce que l'endroit où tu as grandi, donc Marseille, si j'ai bien compris, a joué un rôle et a eu une influence particulière sur qui tu es aujourd'hui ?
On ne peut pas dire le contraire d'une ville comme Marseille. Toute ville a son charme ou ses déconvenues, mais c'est une ville qui a une identité tellement forte et aussi une aura, une ambiance tellement forte. Alors c'est ce qui fait aussi que moi j'en suis partie et je suis assez heureuse d'en être partie. C'est une ville que j'adore mais dans laquelle aujourd'hui, pour l'instant, je ne peux pas vivre au quotidien. C'est très fort, c'est très particulier, il y a une ambiance très particulière, il y a un rapport aussi à la... Je sais pas, il y a un rapport à la vie qui est pas... Moi, je me suis sentie bien d'en être un peu éloignée. Donc Paris a représenté une sorte de terre d'accueil pour moi, d'abord culturellement aussi, parce que c'était très riche et je pouvais être au contact de plein d'artistes très différents. Et après, je reste très, très attachée à Marseille. C'est la première ville où j'ai écrit, où je me baladais dans la rue. J'avais toujours un petit carnet sur moi. Donc, au niveau poétique et au niveau de mon imaginaire, ça reste une ville très, très présente. Ouais.
D'accord. Et Tissé, donc, c'est... Alors, j'ai lu parfois troisième, parfois quatrième album.
En fait, sur ce qui... Il s'agit du songwriting, des compositions. Oui. On peut dire que c'est le troisième, parce que j'en ai fait un peu sous le coude, enfin sous le tapis, qui n'est pas vraiment sorti nationalement, qui s'appelait On Virago en 2009. Ensuite, j'ai sorti Main Blue,
oui,
avec Anne Passé et Pierre-François Blanchard. Là, c'était plus un travail autour du blues, musique noire américaine, en 2016. Entre-temps, j'ai fait des albums de répertoire, de reprise. Donc j'ai fait cet album qui s'appelle Bye Bye Berlin, sur le Berlin des années 20-30, avec le Quatuor Manfred, et un album avec Pierre-François Blanchard qui s'appelle Le Secret.
Le Secret, voilà.
Sur la mélodie française et la chanson française.
Oui, ceux-là, je les ai trouvés sur les plateformes de streaming. Donc, Tissé, c'est donc ton troisième vrai album à toi, on va dire. Et il a été précédé de pas mal d'expériences, donc diverses et variées. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes qui te semblent importantes dans le parcours ?
Il y a une rencontre importante parce que justement, elle vient de Marseille, enfin du Sud. C'est la rencontre avec le saxophoniste et compositeur Raphaël Imbert, qui est quelqu'un avec qui je collabore toujours assez régulièrement. Voilà, qui est un peu comme un grand frère pour moi. Et c'est vrai que c'est un grand jazzman. C'est aussi quelqu'un de très érudit, très iconoclaste dans sa façon d'aborder voilà, la musique, la connaissance, l'histoire de la musique noire américaine. Et puis on a fait des voyages ensemble, on a rencontré plein de musiciens ensemble. Et je lui dois beaucoup parce que je trouve que c'est quelqu'un qui m'a laissé grandir à ses côtés de manière très libre et en même temps très attentive, très bienveillante, et qui a un vrai amour des mélodies et de la chanson. Donc j'ai toujours eu la place dans ses répertoires de chanter un jazz, mais qui était en lien avec le texte, en lien avec la tradition vocale et la tradition folk même. Mm-hmm. Voilà, donc c'est vrai qu'on est passionné par la Nouvelle-Orléans, le sud des États-Unis, on a beaucoup de choses en commun. Et puis il y a la rencontre avec Archie Shepp aussi, qui a été évidemment très très déterminante. Et Archie, avec qui je collabore toujours aussi. Donc là, c'était plus initiatique. C'était vraiment avoir la chance de côtoyer un grand maître comme ça.
Côtoyer et puis faire ensemble. Jouer ensemble.
Voilà. Et là, j'ai appris énormément de choses aussi au contact d'Archie. J'apprends encore beaucoup. Et après, on peut citer des compagnons de route qui sont en effet importants ces dernières années. Donc Pierre-François Blanchard, j'en ai parlé, qui est pianiste, avec qui on partage beaucoup, beaucoup de répertoires et avec qui on partage aussi une certaine conception, enfin une certaine idée de la voix, parce qu'on s'est rencontrés dans le contexte de stage autour de la voix humaine, avec des acteurs, des danseurs. Donc on était deux musiciens de jazz, mais on s'est rencontrés sur un tout autre terrain. Et c'était très intéressant, ça nous a donné une culture commune, comme ça, d'exploration de la voix.
D'accord.
Et puis dernièrement, puisque ça fait à peu près maintenant 3 ans, je pense qu'on travaille ensemble, 2-3 ans, Mathis Pascot, qui a réalisé et co-composé en fait la plupart des chansons de Tissé.
Parce qu'on a assemblé ça un peu à quatre mains, oui.
Puisque c'est plus qu'un arrangeur, oui, parce qu'en fait il intervient aussi dans les tout débuts de la formation de la chanson, quoi. Donc là aussi, c'est une rencontre très neuve, mais absolument déterminante quoi, pour maintenant qui je suis, comment je chante, etc. C'était une grande étape. Voilà.
Et dans tes expériences de scène, je me demandais, parce qu'il y a vraiment un univers dans cet album qui est, on sent qu'il est le tien. Et je me demandais, est-ce que tu as eu d'autres expériences scéniques de théâtre ou d'autres formes de spectacle, ou est-ce que ça a toujours été la musique ?
Non, j'ai souvent été à la lisière entre théâtre et musique, dans certaines expériences, soit des spectacles pour enfants ou d'autres spectacles, on va dire, un peu mélangés. Et j'ai écrit, enfin co-écrit, en tout cas imaginé un spectacle il y a quelques temps qui tourne en ce moment, qui s'appelle L'île aux champs mêlés, qui est vraiment du théâtre musical. Et moi, j'aime beaucoup être sur scène. Alors, j'adore mener un concert aussi, mais j'aime beaucoup les formes qui mélangent la narration, la dramaturgie, la scénographie et la musique. Et je me sens assez comédienne en fait, comme chanteuse. Donc,
Qu'est-ce qui te nourrit en dehors de la musique ?
Beaucoup l'image. Pour chanter, j'ai besoin de beaucoup regarder des images. Ça peut être des tableaux, des photos.
Pour écrire,
des films aussi. Oui, pour écrire, mais aussi pour chanter, hein, pour projeter une interprétation ou imaginer un contexte psychologique, etc. J'ai souvent en tête des images. Alors ça, c'est l'éducation vocale, moi, que j'ai reçue. Donc, c'est des gens qui viennent du Royal Theatre, en fait, avec qui j'ai appris pas mal de choses. Et on a beaucoup travaillé sur les images. Les images, le corps, les caprices du corps, de la voix. Donc, Donc ça me nourrit beaucoup. La littérature, évidemment. Après, je ne suis pas une grande lectrice. Je lisais beaucoup plus quand j'avais 15-16 ans qu'aujourd'hui. Peut-être parce que j'en prends moins le temps. Et aussi que les écrans prennent beaucoup de place de temps. Mais notamment pendant le confinement, je sais que c'est un livre qui m'a beaucoup accompagnée pour écrire Tissé. Et c'est un livre d'entretien d'Annie Ernaux. Et c'est vrai que je connaissais peu Annie Ernaux. Et... voilà, enfin, il y a des figures comme ça, des paroles, des pensées qui peuvent être pour moi très très fortes. C'est vraiment des accompagnements dans l'écriture. J'ai besoin de me sentir quand j'écris en lien avec une sorte de grande famille. Donc parfois ça peut être les chansons de Pierre Barou ou celles de Leonard Cohen auxquelles je reviens souvent.
Oui.
Ça peut être la newsletter de Patti Smith qu'elle fait de manière très très très. Enfin, elle envoie plein de choses en fait depuis le confinement et c'est
puis
un super
aussi,
rapport avec son public.
Elle a explosé toutes les limites.
Et voilà, donc plein de choses qui m'influencent et qui sont pas forcément en effet de la musique. Et puis tous ces temps de contemplation, hein, de méditation, de contemplation que je peux avoir dans le train ou en marchant dans la rue. Là, ce sont des moments où je suis, je pense, dans un état de grande réceptivité, sensible. Comme le promeneur solitaire, quoi. Parce que ça, c'est important de pouvoir encore avoir ça dans nos vies urbaines ou dans nos vies. Moi, je suis. J'ai un conjoint, j'ai une fille de bientôt 7 ans, j'ai une vie très.
On l'entend, non, d'ailleurs,
oui,
dans l'album.
Où sont passées les roses, oui. Alma. Et donc, j'ai des petits soucis, là, pas bien graves, mais comme tout le monde, quoi. De la charge mentale, des choses auxquelles il faut que je pense, des choses qu'il faut que je paye, des choses qu'il faut que j'achète. Enfin,
oui.
Tout ça qui m'occupe, et puis plein de grands questionnements. Et j'apprécie d'avoir ces moments comme ça de grande, je ne sais pas comment dire, mais indépendance, liberté, anonymat. Et Paris m'aide à ça aussi. Voilà, c'est quelque chose que je ressens beaucoup moins à Marseille.
Et je crois qu'il y a un mot qui n'a pas encore été prononcé, pourtant il me semble qu'il est important dans ta vie, c'est le mot poésie.
Oui. Bah alors on vient de parler d'un peu tout ça parce
on tourne autour
parce que c'est vrai qu'il y a la pratique du chant qui est vraiment c'est un métier quoi de chanter, d'interpréter, mais la pratique poétique elle a plus attrait à un état, je pense, et à une fonction qu'on occupe dans la vie et même dans la société en toute modestie, hein, mais je veux dire, ça demande un décalage quand même certain.
Et tu écrivais de la poésie, non ?
Beaucoup, depuis que je suis enfant, quoi. Ouais. Enfin, depuis que j'ai 11-12 ans, 10-11 ans, j'écrivais en français. Après, j'ai découvert l'anglais qui m'a beaucoup donné envie d'écrire, donc j'ai noirci des cahiers entiers en anglais.
Et tu n'as jamais eu envie ou essayé de publier ou d'en faire ça se traduit en chansons maintenant ?
Bonne question, parce que maintenant j'écris beaucoup. Enfin, il y a eu quelques mois là pendant lesquels j'ai écrit d'abord des poèmes. Donc j'écrivais un poème, et après je me servais de bout du poème pour articuler une chanson, parce que mes chansons sont pas forcément maîtrées comme des poèmes. Et donc je fais des va-et-vient de l'un à l'autre, mais j'ai jamais vraiment pris au sérieux ce côté juste écrire. Et ça me chatouille quand même pas mal.
D'accord.
Ouais. Oui, comme ça, je pourrais refumer plein de cigarettes.
Ah bon, parce que
mais je crois que si j'arrête de chanter, je vais pas me sentir bien. Mais je pourrais y penser.
Oui.
D'ailleurs, il y a des. Alors, je pense à des femmes, mais évidemment, ou Leonard Cohen, mais des gens comme Brigitte Fontaine ou Patti Smith sont aussi écrivent des livres ou des recueils de poèmes. Donc oui, il faudrait que j'y songe.
Et d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure que tu aimais bien dans les spectacles qu'il y ait plusieurs genres qui cohabitent et qu'il y ait de la narration, il y a pas. Ça ne t'est jamais arrivé de dire quelques mots comme ça.
J'avais écrit des fois des textes en introduction de certaines chansons, etc. Là, pour L'île aux champs mêlés, j'ai confié l'écriture à mon compagnon, Martin Sarrazac, qui a une meilleure idée, je pense, de ce qu'est l'écriture théâtrale. Il est réalisateur aussi, donc au niveau des dialogues, de la force d'un texte.
Oui.
Moi, je crois que mon écriture, elle est vraiment poétique, quoi. Donc, ça se prêterait plus à des petits fragments.
D'accord. Voilà. Alors, quelques mots peut-être sur les rivières souterraines. Qu'est-ce que c'est les rivières souterraines ?
Les rivières souterraines, c'est une expression de Pierre Barou. Ça signifie l'art des rencontres, l'art des connivences, des synchronicités qui se dévoilent dans nos vies à tous. Parfois, on va croiser quelqu'un qui en fait connaît très bien un bon ami à vous ou qui va vous parler d'une chose qui vous a bouleversé il y a quelques mois et puis en fait, vous pensiez que personne n'avait connu ça. Et
oui.
Donc ça, il appelait ça les rivières souterraines. Il se trouve que Pierre-François Blanchard, donc qui est vraiment un compagnon de route depuis des années, a été le pianiste de Pierre Barou pendant pas mal de temps. Et donc, Pierre, c'est quelqu'un dont la pensée et dont la philosophie, la poésie nous accompagne beaucoup avec Pierre-François. Que ce soit par ses chansons ou par les petites expressions qu'il avait. Et lorsqu'on a monté notre compagnie, une structure qui nous permette de produire nos spectacles, nos disques, etc., parce qu'on avait... On était conscient qu'il fallait être un peu indépendant, mais en même temps se structurer. C'est assez naturellement qu'on a eu envie de l'appeler les rivières souterraines. Et à l'époque, Pierre, donc c'était de son vivant, et Pierre Barou nous a donné sa bénédiction pour appeler l'association les rivières souterraines. Donc maintenant, c'est aussi un label. Et Tissé, c'est la première parution en fait, de ce label, sachant que une petite année, Pierre-François Blanchard va justement sortir, lui, son propre disque sur
D'accord.
ce label.
Donc, dans quel contexte sont nées les chansons de cet album Tissé ?
Il y a une partie des chansons que j'avais commencé à écrire à l'hiver entre 2019 et 2020.
Oui.
Il y avait beaucoup de choses que j'ai laissées en fait, sur le côté parce qu'on les avait déjà jouées, soit en live, soit avec le groupe, etc.
D'accord.
Et quand Mathis Pascot est arrivé dans ce travail-là, c'est vrai qu'il m'a proposé de réaliser le disque. Et moi, c'était un travail que je n'avais jamais mené avec personne. Donc, je n'avais pas trop conscience. Enfin, si, je savais en quoi ça consistait, mais pas forcément selon ses termes à lui. On a un peu mis les choses à plat, quoi. On a fait un peu table rase de ce qu'il y avait avant. Et puis après, j'ai fait des nouveaux morceaux. Et donc, on échangeait des choses. Il refaisait des guitares dessus. Je remettais ma voix. On échangeait comme ça avec des maquettes, des choses qu'on s'envoyait.
Tu avais une idée du style déjà que tu voulais sur cet album ou...
J'avais une idée de la thématique.
Oui.
J'avais une idée de la thématique. Je savais que je voulais chanter. Je me posais la question de qu'est-ce qu'il nous restait à chanter. Je me suis posé la question des fins aussi. La fin de l'amour, la fin du monde, la fin de la vie. Il se trouve que j'ai vécu des deuils aussi entre 2019 et 2020. C'est pas des deuils tragiques, c'est mes grands-parents. Mais il y en a trois qui sont morts en un an, quoi. Donc c'était vraiment très particulier. Surtout mes deux grands-mères, de perdre mes deux grands-mères aussi. C'était assez fort. Et... c'est Mathis qui a plutôt indiqué de tirer le fil d'une intimité comme ça dans la voix. C'est des choses qu'il avait perçues, je pense, dans certains de mes enregistrements, et notamment dans Le Secret, ce disque qu'on avait fait avec Pierre-François Blanchard, avec l'expression en français aussi. Et c'est vrai qu'il y avait toute une espèce de palette d'expressions vocales que je m'étais permise ces dernières années, et que je pense qu'il y avait du tri à faire, que moi, j'étais pas vraiment capable de le faire. Et donc, c'était super d'avoir des oreilles extérieures comme ça, pour un peu m'aider à prendre une direction et m'y tenir. Et donc, alors il y a eu un côté très délicat dans ce travail-là, très touchant, etc. Et aussi très âpre, enfin très austère, parce que des fois, on ne sait pas exactement où on va, où on se dit, mais on a laissé tellement de choses sur le côté, est-ce que ça va marcher ?
Oui, les questionnements, les doutes.
Je me suis sentie toute nulle, toute jeune, toute bête, toute débutante. Et c'était formidable, parce que du coup, ça a sorti des choses qui étaient intéressantes.
D'accord.
Voilà.
Et en dehors de ton indéniable talent, est-ce que tu as une idée de ce qui a fait que cet album est aussi beau ? Parce que franchement, et je l'ai lu aussi dans ce que j'ai lu en préparant cette interview, je ne suis pas la seule à le ressentir. Il y a quelque chose vraiment de tellement beau dans cet album qui fait tellement du bien quand on l'écoute. Et tout est à sa place. La voix, je trouve, par rapport à ce que j'ai écouté de tes albums précédents, je trouve que la voix est tellement, je ne sais pas comment formuler, là où elle doit être, quoi. C'est exactement, on dirait que tout est aligné. Et musicalement aussi, le choix de toutes les interventions musicales, des instruments, de cet univers qu'il y a dans cet album, des mélodies.
Écoute, moi je pense que je ne peux pas en prendre tout le crédit, c'est-à-dire que j'ai été dans les conditions idéales pour faire les chansons les meilleures possibles et oui. chanter le mieux possible.
Oui.
Et après, je pense qu'il faut vraiment admirer le travail un peu de chef d'orchestre comme ça, de metteur en scène, de metteur en son, qu'a su faire Mathis Pascot, également Tony Pellman qui a mixé le disque. Jusqu'au mastering par Simon Lancelot et puis chacun des interprètes qui se sont prêtés à cet exercice qui n'était pas facile parce qu'en plus pour certains ils m'accompagnaient depuis longtemps et là c'était un tout autre contexte, c'était arrivé dans un studio avec des choses qui étaient déjà un peu prêtes et là il fallait mettre une petite touche par-ci, une petite touche par-là et ils s'y sont très très bien prêtés. Il y a aussi la batterie de Raphaël Chassin et les percussions, toutes les couches de rythme comme ça qu'il a
oui.
empilé qui sont en fait qui font battre le cœur de cette musique là oui, telle oui. que Mathis l'avait imaginé et ça marche aussi très très bien. Donc je pense que c'est toute la ce qu'il faut. Moi je suis très reconnaissante de cette richesse là mais je sais que cette richesse là elle est parce que voilà, il y avait des bonnes rencontres au bon moment et une confiance aussi qui a fait qu'on y allait quoi. Et en fait, ça, c'est vraiment la pierre angulaire d'un travail comme ça, c'est la confiance. Parce que sinon, oui. on tire à soi des choses, ou on a peur d'y aller, on ne va pas être content au final. Enfin, on ne va pas être content. Là, c'est vrai qu'on est très content. On est très content de... On a encore plaisir à l'écouter. Enfin,
oui.
Ouais.
Et c'est vrai que ce mot, c'est le mot qui m'est venu en le réécoutant aujourd'hui avant l'interview, cet album, le mot « confiance ». Par rapport à la voix, je me suis dit, c'est drôle, vraiment, dans sa voix. Alors, est-ce que c'est un cheminement intérieur qui a été fait ou est-ce que c'est par des aides extérieures, je ne sais pas. Mais ce mot m'est venu, je me suis dit, sa voix a beaucoup plus d'assurance, mais pas une assurance dans le sens agressif. Quelquefois, l'assurance, c'est un peu de l'arrogance ou un peu de... Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. C'est juste de la confiance, en fait. Il y a quelque chose de très... qui fait aussi, que je trouve, dans cet album, c'est à la fois très délicat. Mais délicat, quelquefois, c'est un univers... Alors, c'est intime et intimiste, mais il y a quelque chose de très ample aussi. C'est pas de l'intime qui enferme. Et d'ailleurs, j'ai lu, et je me suis dit que peut-être ça avait pu jouer, j'ai lu que, je crois que c'est ta maman qui écoutait beaucoup de chanteuses canadiennes.
Oui.
Parce qu'en fait, moi, quand je suis allée plusieurs fois au Québec, ce qui m'a frappée, je me disais, c'est drôle, parce que c'est quand même de la musique, de la chanson francophone, ce que je pouvais écouter en chanson francophone au Québec. Et il y avait quelque chose, je trouvais, d'assez différent de ce qui était créé ici, en France. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ça doit venir du lieu, c'est-à-dire du continent américain. Il y a quelque chose qui est désinhibé, c'est pas étriqué, il y a quelque chose qui prend sa place, pas trop de place, qui est juste à sa place, quoi. Et en fait, j'ai ressenti ça aussi en écoutant ton album.
C'est vrai que j'ai un rapport au français qui tend vers ça, mais à la fois vers l'intimité, vers quelque chose de très particulier, très singulier,
oui.
et puis aussi quelque chose qui puisse voilà, se chanter aussi pleinement.
Oui, c'est ça.
Et puis on est très influencé par de la musique plutôt américaine en fait, hein, aussi, et puis d'autres musiques folkloriques, mais par le folk américain et l'Amérique, ce qu'on appelle l'Americana. Donc je pense que ça contribue aussi à une sorte de paysage qui décadre un peu par rapport à des productions en français qu'on peut
oui,
entendre
oui.
aujourd'hui.
C'est sûr. Et alors, bien que l'on se laisse porter par la musicalité et la poésie de tes textes et par leur langue étrange aussi, est-ce qu'il y a des sujets dans ces nouveaux textes qu'il était important d'aborder pour toi ?
Il y a un sujet qui circule un peu à bas bruit parce que c'est pas quelque chose où je me sens... Moi, j'ai des chansons, des fois, qui sont engagées, mais elles sont engagées de manière un peu dégagée, enfin,
oui.
avec un pas de côté. Elles sont discrètement engagées. Mais c'est vrai qu'il y a des figures qui m'ont toujours passionnée. Donc, dans D'autres Soleils, qui est un morceau où c'est Anne Passeo qui a la batterie.
Oui.
C'est un morceau qui parle du paria, de la figure du paria. Mais ça pourrait très bien être aussi quelque chose d'adressé à quelqu'un qui migre, qui part. Du coup, sa vie était indésirable là où il vivait. Mais là où il arrive, en fait, c'est lui qui est sa vie indésirable pour les autres, quoi, qui ne l'accueille pas. Donc
oui.
ça, c'est des figures qu'on croise beaucoup aujourd'hui et qui
oui.
nous questionnent. Voilà, ça, c'est des choses qui me questionnent beaucoup. Il y a la vieillesse qui est beaucoup abordée aussi, parce que donc, j'ai perdu mes grands-mères
oui.
et puis j'ai
oui.
vu leur grande vieillesse et aussi leur dépendance et puis elles ont eu des démences ou la maladie d'Alzheimer. Donc c'est des choses qui m'ont beaucoup touchée aussi et je pense que ça c'est des sujets que je vais réaborder dans un prochain album, à la fois l'enfance et puis la grande vieillesse. Je pense qu'on est toujours tendu comme ça entre ces deux mondes qui sont un peu d'autres dimensions, mais qui nous accompagnent toujours, hein, soit dans l'anticipation, soit dans le souvenir.
Oui.
Et il y a eu beaucoup de choses aussi qui avaient attrait à l'amour, en tout cas à la relation amoureuse, la relation de couple, avec toutes les questions qu'on peut se poser quand on est une femme de 40 ans, toutes les questions qu'on se pose aussi aujourd'hui dans les relations hommes-femmes. Voilà, je pense que je me suis questionnée sur tout plein de choses et que les chansons, en un sens, portent un peu ces questions-là. Voilà.
Oui. Sur les migrants, il y a un lien aussi avec le titre Passe-Montagne, je crois, non ?
Oui, le titre Passe-Montagne, c'est un titre que moi j'ai composé. Alors j'en ai composé la moitié de la mélodie, là c'est étonnant parce que c'est une espèce de collage et de conversation mélodique avec Mathis Pascaud, puisque lui il a écrit la partie qui est jouée par les cuivres et la guitare. Mm-hmm. Et c'est quelque chose que j'ai enregistré en passant le col de l'échelle en train. Donc c'est dans les Alpes, entre la frontière italienne. Et là, il y a beaucoup de migrants d'Afrique de l'Ouest ces dernières années qui traversent par le col de l'échelle en basket, dans la neige. Enfin, c'est vraiment particulier comme contexte.
Mais c'est un rapport avec 20 000, ceux qui viennent de 20 000?
Oui, c'est pareil.
Ah, oui,
c'est le
parce
même,
que j'avais interviewé
c'est les mêmes gens
Teresa
qui
Maffeis,
se perdent
qui était très engagée
sur les routes,
voilà,
exactement, de la Roya, de la vallée de la Roya, ou oui. Plus haut. Alors, c'est un petit peu plus haut, puisque c'est vers Serre-Chevalier, enfin, pour repérer.
Et
hein,
qui se retrouvent pieds nus dans les cols, voilà. Où il y a de la neige et complètement perdus avec des enfants.
Génération identitaire est allée mettre des banderoles charmantes.
Oui.
Donc, c'est toute une histoire là-bas, parce qu'il y a les carabinières qui les poursuivent, il y a les gendarmes, et puis après finalement le soir la femme des gendarmes elle fait des pâtes pour les migrants, enfin, et à Briançon l'ancien maire avait permis aussi à une association de tenir un refuge.
Oui.
Ça a été voilà, vraiment une actualité très très forte pour les gens qui vivaient dans cette région. À l'époque j'allais beaucoup au festival de Briançon, au théâtre du Briançonnais. Et à chaque fois que je repartais vers Paris, j'étais dans mon TGV, il y avait des gens dans mon wagon, et puis pouf, on passait la frontière italienne, enfin la frontière française en Italie.
Oui.
Parce qu'il faut repasser par l'Italie pour aller à Paris quand on est là-bas. Et là, il y a des gens qui quittent le wagon. C'est-à-dire qu'il y a des gardes frontières qui arrivent, qui fouillent, qui vérifient, et puis il y a des gens qui ne sont pas désirables à passer la frontière, quoi. Et ça m'avait beaucoup marqué, cette histoire. Donc la mélodie est venue comme ça, je me suis dit que j'allais faire quelque chose sur cette histoire-là. Il se trouve que moi, mes ancêtres, ils ont traversé, enfin j'ai un ancêtre qui a traversé cette frontière-là, depuis le Piémont. Donc c'était l'immigration italienne, de la fin du 19e siècle. Les Italiens, les immigrés italiens à Marseille à l'époque, c'était vraiment pas des gens bienvenus du tout, hein. Ils ont vécu quand même du racisme, de la xénophobie. Bon, je me suis un peu mélangé tout ça et je me suis dit, tiens, je vais faire The Partisan de Leonard Cohen. Oui. C'était la référence. Évidemment, j'ai galéré sur le texte comme c'était pas possible parce que les choses sortaient pas. Et je sais plus à quel moment. Alors j'étais en train de travailler sur le texte et puis j'apprends la mort de ma grand-mère Madeleine, donc celle qui est d'origine justement italienne. Et puis, Matisse très vite me dit, mais tu sais, ce morceau, il est beau sans parole. Mm-hmm. C'est bien avec
juste la voix,
ces vocalises comme ça, parce que au moins c'est pas trop concret, ça nous met dans... Et je sais que lui, comme ça s'appelait Passe-Montagne, donc lui il imaginait plutôt d'être comme un yéti dans une grotte avec des stalactites et une espèce de milieu comme ça très minéral, très naturel, et pas forcément de contexte politique. Donc c'était intéressant, et au final, en le chantant sur scène, alors c'est un morceau qui plaît beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui dans le disque, voilà, c'est leur morceau préféré, quoi. Il y a une espèce de, c'est vrai, de côté peut-être sans s'accrocher à un texte, on part aussi très loin dans la musique, et puis il a un côté presque cinématographique, ce morceau. Et en le chantant sur scène, je me suis rendu compte que la mélodie était très très collée à une vieille chanson que me chantait ma grand-mère Madeleine, justement, qui s'appelle Le Petit Âne Gris. Une petite chanson provençale d'une tristesse infinie sur un petit âne qui rend bien des services dans un village et puis qui meurt un jour, voilà, tout seul dans son étable. Et je trouvais ça joli de revenir au Petit Âne Gris et de me dire, bon, t'as pas écrit Le Partisan de Leonard Cohen, mais t'as quand même pondu quelque chose. Peut-être c'est la chanson pour Madeleine, quoi, au moment où elle est partie.
Oui.
Et en fait, il y a eu beaucoup de chansons dans cet album sur ma grand-mère Madeleine.
D'accord.
D'ailleurs, j'en écris encore maintenant, mais dans Blossom, par exemple, je me suis vraiment imaginé le moment de la mort. Hein. Alors c'était la mort, et puis c'était aussi la mort d'un amour. Enfin, j'étais comme dans un basculement entre un amour qui allait devenir un ancien amour peut-être, et puis un amour nouveau qui était impossible au moment. Enfin bref, il y avait une espèce d'impossibilité comme ça, et la vie qui s'en va, et les nuages qui passent, et les dernières pensées qu'on peut avoir.
Oui.
Voilà. Donc la mort était très présente quand même.
Oui.
Avec en plus cette année du Covid et puis ce confinement qui était une drôle de suspension, une drôle de parenthèse. Et ça a sans doute beaucoup bercé l'ambiance de ce disque. Ouais.
Mais c'est vrai que j'ai lu dans les qualificatifs qui reviennent souvent le mot mélancolie. Mais en fait, moi, j'ai pas... Oui, évidemment, je comprends moi, par rapport à quoi ils disent ça. Mais c'est pas du tout une mélancolie qui plombe. C'est vraiment quelque chose, je trouve, dont on sort en se sentant bien. Même si c'est traversé par des thèmes graves et des thèmes difficiles.
Mais là, il y a beaucoup de lumière.
Oui, c'est ça.
Dans Reminder, je dis ça, je dis ne laisse pas tomber si tu crois qu'il nous reste une chanson à amener. Enfin, il y a toujours une chanson qu'on peut amener, même quand on sera des petites herbes sur le bord des rails, du train ou des toutes petites ombres sur le sol.
Oui.
Donc en gros quand on sera mort quoi. Et donc il y a quand même la croyance dans l'esprit, enfin dans l'esprit hein, de ceux qui sont partis et qui nous animent toujours.
Oui, c'est ça.
Et ça c'est très lumineux. Donc pareil pour la politique, s'il n'y a pas d'espoir en politique, on fait pas grand chose. Hein.
Oui. Ça, voilà, on est dans une époque où c'est bien de le rappeler. L'espoir ouvre.
Oui, ouvre mais même l'espoir que ça ne sera pas toujours parfait, parce que en fait, c'est pareil que la vie. Bah, la vie, ça va s'arrêter un jour hein, pour nous tous.
Oui, oui, oui.
L'amour, c'est pareil. Est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est juste ce qu'on en fait finalement, et les liens qu'on tisse
quelle
avec les gens.
Quelle est la part d'illusion ?
Exactement. Et le social, enfin le politique, c'est aussi à inventer tout le temps et puis essayer des nouvelles choses, regarder ce qui s'est fait avant. Et avant, ça ne veut pas dire au 18e, ça veut peut-être dire il y a 5000 ans. Et voilà, et je pense que si on garde un peu de curiosité pour tout ça, bah, ça va, on peut tenir le coup, quoi.
On sent d'ailleurs à la fois que c'est tendu entre le passé et l'avenir, je trouve, cet album, parce qu'on sent dans les sonorités, dans tout un tas de choses, cette influence de quelquefois le son du piano, le son de... On a l'impression d'être dans un vieux saloon où, avec tu sais, les vieux pianos un petit peu pas désaccordés, mais ce son d'ailleurs, oui, ce
c'est
son
un piano
de piano
droit.
Là.
C'est un piano droit, donc oui, ça comptait vraiment. Je pense qu'il y a un peu un amour, alors pas des vieilles choses, mais voilà, d'objets ou de sons ou d'instruments qui ont une histoire. Mais pareil pour les références musicales, l'harmonie et tout. Et puis aussi des choses complètement plus modernes, plus avec l'utilisation des claviers. Ou...
Oui, puis l'ouverture, parce qu'on sent cette envie de recomposer. D'ailleurs, on est dans une période hein, où on a envie de recomposer le monde, où on a envie de recréer des
mais
nouvelles
avec
sociétés.
Mais des choses qui ont déjà été peut-être essayées ou expérimentées. Ouais.
Donc, il y a évidemment les influences de la Nouvelle-Orléans dont tu as parlé. Mais en fait, j'en parle pas beaucoup dans l'interview parce qu'à la fois, c'est très présent et en même temps, c'est pas... c'est vraiment toi, cet album.
C'est pas une référence. C'est,
voilà.
C'est pas une citation. D'ailleurs, il y a très
y a
peu
pas de
citations.
Il y a pas
c'est
de...
pas voilà. Un mimétisme. C'est
voilà.
Ça. Et c'est ce qu'on a cherché aussi. Et je pense que c'était super de travailler avec Mathis pour ça, parce qu'il a vraiment ces cultures-là et il avait le souci de surtout pas faire quelque chose. En fait, dès qu'on tombe dans un truc qui ressemble à de la citation ou à de la... Donc à de la, peut-être de la caricature.
Oui.
Ou
de
en
l'appropriation.
En fait, il a une espèce de... Je sais
y a pas
d'appropriation. De... Voilà, aussi. Ouais. Et il a un bon radar pour ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment son cahier, c'est son boulot à lui. Hein,
oui,
de...
oui. Mais on sent que c'est très subtil.
Voilà.
C'est intelligent dans l'approche, quoi. Sans que l'intelligence soit un handicap, parce que quelquefois, dans la musique, je trouve que ça peut bloquer au niveau émotionnel.
On reste dans du sensible. C'est ça qu'on cherche, vraiment.
Et la musicalité, d'ailleurs, de ces textes, parce que j'ai l'impression que tu l'as créé en assemblant les mots comme on assemble des notes de musique, comme si tu composais avec les mots. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette façon d'écrire un peu comme si tu composais avec la musicalité des mots et de nous parler du nom que tu as donné à cette jolie langue ?
C'est la langue que j'ai appelée la langue des cœurs coulés. L'idée, c'était de me faire une langue qui soit très en référence, en fait, en effet, au français, enfin, à la francophonie des Cajuns, des créoles louisianais, parce que c'est en allant là-bas que j'ai eu envie d'écrire en français. Et j'ai entendu voilà, un français qui était vraiment, qui roulait autrement, qui des fois avait des petits bouts d'anglais dans la syntaxe, hein, dans les inversions syntaxiques, qui des fois avait des petits bouts, je ne sais pas, de parler des campagnes du 18e, du 17e. Et donc j'aime bien ça, j'aime bien des traces d'anciens comme ça dans la langue. Et maintenant, il y a des choses que je me permets, enfin c'est moi qui bouscule, des fois je bouscule des adjectifs, des participes. Donc ça a à voir pas mal à une langue orale. Il y a une espèce d'épure aussi, je cherche une... à bousculer, puis je cherche aussi à appauvrir. C'est un peu à épurer, en tout cas, à limiter les moyens. Et donc, il y a des mots qui reviennent très souvent chez moi. J'ai une espèce de champ lexical qui est assez... que maintenant, on peut repérer, quoi, de chanson en chanson. Et c'est important pour moi, ça fait partie de ma gamme. Mais de même que dans les mélodies, je me sers beaucoup de la gamme pentatonique, parfois consciemment, parfois inconsciemment, mais c'est comme ça une sorte de vocabulaire très personnel, enfin, que je me suis un peu approprié. Et parfois j'écris, et puis alors je vais chanter ce que j'ai écrit, souvent c'est plutôt une mélodie qui va jaillir, comme ça, en parlant, enfin, en promenant dans la rue, ou le soir, en berçant ma fille.
Oui.
Donc je note des petites choses, j'enregistre sur mon téléphone. Et j'ai beaucoup de mal à me décoller de la première impulsion. Parce que parfois, une mélodie, elle va sonner dans le yaourt dans lequel je l'ai écrit. Alors, des fois, au milieu du yaourt, il y a un mot, deux mots, trois mots, une phrase. Et je fais très attention à ce contenu-là, parce que c'est comme des messages. Bon, bah, c'est l'inspiration, donc je sacralise
oui,
un peu ce truc-là.
Oui, c'est le point de départ. Oui.
Et j'essaye d'assembler autour, quoi, de faire avec ce bout-là.
D'accord. Alors... Oui, Marion, en fait, donc je voulais te demander pour nos amis auditrices et auditeurs qui nous écoutent, puisque malheureusement, les sociétés de droit ne s'étant toujours pas mis d'accord pour pondre quelque chose de cohérent et de facile pour que l'on puisse mettre la musique dans le podcast, donc ce qui fait qu'on ne peut toujours pas mettre de titre dans le podcast. Donc, chers amis qui nous écoutez, je vous mets des liens pour pouvoir aller sur la chaîne YouTube de Marion Rampal, sur, je mettrai comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, son site internet où vous pourrez aller écouter. Pour vous donner une idée de la musicalité particulière de ces textes, donc je voulais te demander, Marion, si tu pouvais nous dire, évidemment, ce n'est pas comme en musique, mais charge à vous ensuite d'aller écouter, de nous dire quelques lignes d'un de tes titres.
Alors je vais vous dire maudire, justement. Tout ça, c'est pas mentir, sous y dire les mots doux, les dés jetés par terre, y lire qu'on est à bout, qu'on vit sans le sentir, qu'on a saoulé son air, qu'on va filer, partir, pour pas se désoler. Tout ça, c'est pas maudire, c'est pas s'y rendre fou. Le cœur coulé par terre, la tête a plus tourné, c'est pas meilleur ou pire, c'est pas tout destiné. Et la nuit peut dormir jusqu'à matin levé.
C'est étonnant parce que tu as presque un accent quand tu
parles. Alors mon père, quand il a entendu ce morceau, il a dit « Mais je chante en créole
!» Les R sont particuliers, oui.
Oui, mais je pense que je suis très influencée par les vieux collectages des mamies cajun. Là, j'écoute pas mal de choses, mais je parle avec mon cousin qui vit au Canada, alors c'est drôle parce que je prends tout de suite les accents. En fait.
D'accord, c'est pour ça que
alors,
c'est...
Alors, et ces femmes qui parlent en disant « Ah ben, j'atteignais à Diamond et voilà, et je chante comme ça et parle comme ça et avec ma maman, ah ben, je chantais réglé. Ben, ma maman, c'est une femme qui chantait réglé. »
Qui chantait réglé.
Qui chantait réglé. Qui chantait bien juste oui. Avec les autres, enfin, c'est drôle.
C'est joli, oui.
Voilà.
Et alors avant de terminer, tu as invité quelques beaux artistes à te rejoindre sur cet album, des maîtres aussi dans la délicatesse, on peut dire, hein, chacun dans leur genre. Donc Anne Paesseo, il y a Archie Shepp, Pierce Faccini. Est-ce que tu peux nous dire quelques... Tu nous as déjà parlé... Pierce Faccini, on n'en a pas parlé,
on
n'en
a pas parlé, non.
Voilà, donc si tu peux nous dire un petit peu... Ben voilà, pourquoi ils sont là et comment tu as envisagé chaque morceau avec
Anne,
eux.
Anne m'a accompagnée pendant des années, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup joué, notamment autour de mon dernier répertoire Main Blue, donc l'album juste avant Tissé.
Voilà.
et avec qui on partage beaucoup de choses. Moi, j'écris des paroles pour Anne aussi, pour
peut-être
sa musique.
Peut-être la présenter parce
et,
que...
Alors, elle est batteuse, compositrice.
Voilà. Je l'ai vue en première partie d'un concert de Diane Reeves.
Ah oui.
Et c'était tellement exceptionnel que Diane Reeves l'a
fait jouer. Hein, oui.
L'a fait revenir à la
revenir,
fin.
Oui, alors qu'elle, j'ai entendu cette histoire.
Elle s'y attendait pas du tout. Et nous, on attendait dans la salle et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe et combien de temps ça va durer? Et en fait, j'ai trouvé ça très, très touchant.
Bah, c'est une grande dame, maintenant on peut dire dame, parce qu'on a des âges pas vénérables, mais quand même, du jazz en France. Et puis, voilà, elle a aussi une musique qui est très à elle, très singulière, et notamment, elle s'intéresse très fort à la chanson, à la pop, donc c'est intéressant parce qu'elle fait une musique à la fois très instrumentale, où la batterie a pas mal de place, et puis où il y a la chanson, le lyrisme et les textes ont aussi pas mal de place. Donc moi, j'écrivais des paroles pour elle aussi depuis quelques temps, et là, elle m'a invitée à rejoindre son dernier projet aussi, Chaman, donc je suis dans son dernier disque qui vient de sortir, qui est formidable. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a accompagnée longtemps. C'est vrai qu'il est présente sur ce disque et j'aime bien le morceau sur lequel, comme ça, elle est en lumière, qui est très fort, qui évoque l'Afrique aussi.
Oui.
Archie, donc c'est un compagnon de route depuis longtemps. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui est un peu spécial ici, c'est que j'avais envie qu'il chante, pas forcément qu'il joue du saxophone, mais qu'on entende sa voix. Et de plus en plus, on chante ensemble avec Archie.
Et alors, vos deux voix, c'est impressionnant. Hein, on a l'impression que ça se rejoint de deux extrêmes.
Oui,
en fait.
C'était l'idée aussi. Ah oui, avec ces verres en cristal dont je joue donc dans ce morceau-là, qui est très, très délicat, ce morceau-là.
Aérien,
c'est une petite parenthèse. Il y a toute une histoire sur l'endroit où je l'ai enregistré, où je l'ai écrit, où je l'ai composé, etc. Tout est autour de la maison d'Archie, justement, d'Archie et Monette, où moi j'ai passé le confinement.
Qui était bloqué
en
confinement,
à Ivry-sur-Seine. Et après, Pierce, c'est une idée. Alors, c'est quelqu'un que j'écoutais, mais sans forcément. J'y avais pas pensé. En fait, j'avais pensé à un autre chanteur pour faire un duo avec moi sur cet album. Un chanteur que je connais bien et que j'aime beaucoup. Et puis, il se trouve qu'à l'époque où je le lui ai demandé, ça s'est pas fait, où il répondait pas forcément à cette demande-là. Ça se faisait pas. Et puis, en attendant.
On peut savoir
entre-temps. Non, je vais pas le dire parce que comme ça, je pourrais peut-être refaire un duo avec lui bientôt. J'adore chanter avec lui.
D'accord.
Mais Mathis me dit, mais pourquoi tu demandes pas à Pierce Faccini? Parce que c'est vraiment quelqu'un dont le style de travail colle bien à ce que tu fais. Enfin, et c'est vrai que je me suis remise à écouter beaucoup Pierce et je me suis dit, oui, évidemment. C'est-à-dire que sur ce côté comme ça, troubadour, folk, avec plein d'influences différentes.
Et très sensible.
Et très poète aussi, voilà. Et puis un rapport à la voix aussi, très lyrique. Et en fait, j'ai fait écouter à Pierce, j'ai pu l'approcher, puis je lui ai envoyé plusieurs morceaux qui étaient déjà en post-production, donc qui étaient déjà prêts à être dans le disque. Et je lui ai dit, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, pourquoi pas. Et j'avais en tête un autre morceau, un morceau en anglais qui s'appelle Reminder. Mmh. Et en fait, tout de suite, il a réagi à Où sont passées les roses, sur lequel il y avait un solo de trombone à l'époque, à l'endroit où maintenant Pierce a en fait écrit un poème et une mélodie. Il a dit, là, il y a un endroit où j'entends quelque chose que je pourrais faire.
D'accord.
Et c'est formidable parce qu'il a fait un collage, comme ça, il a apporté vraiment sa voix, et puis il chante le refrain aussi avec moi. Et il y a la voix d'Alma aussi.
Français, anglais.
Mélangé en français et anglais. Et c'était une très belle rencontre et on est assez fiers de ce morceau. Quand on se croise, quand on se voit, on se dit elle est belle la chanson. Elle est belle la chanson.
Vraiment, le titre est superbe.
On est très contents.
Oui. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est peut-être un hasard, mais donc Anne Passeo sur le titre D'autres soleils, Pierce Faccini, Où sont passées les roses, Archie Shepp pour Calling the Forest.
Calling to the Forest.
Calling to the Forest. Et en fait, ces trois très belles chansons ont en commun des titres en lien avec la nature. Est-ce que c'est un hasard ?
C'est vrai que c'est en lien avec la nature, mais il y en a d'autres qui le sont finalement.
Oui, c'est vrai.
Mais non, c'est peut-être pas un hasard. Et ce qui est intéressant, c'est que moi qui ne me dis pas, en plus, je suis une écolo discrète, quoi.
Oui.
Je sais pas. Mais j'ai quand même grandi avec la nature, en fait. Que ce soit c'était entre la colline et la mer. Mer, même
d'accord.
Le fond des mers. Moi, je faisais beaucoup de plongée, j'étais avec le masque et le tuba avant de savoir nager, quoi. Donc,
D'accord.
Donc, c'est très présent. Et pour l'album qui arrive, que je suis en train d'écrire, c'est très fort, ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses autour de la nature et autour des oiseaux. Parce qu'il y a aussi un oiseau qui se promène dans Tissé.
Oui, Still the Bird.
Still the Bird. Quand je dis « si l'oiseau chante loin, c'est moins que du drame », il y a beaucoup de choses autour des oiseaux. Et c'est un personnage comme ça, l'oiseau, qui m'accompagne depuis. Et donc, les chansons que je suis en train d'écrire en ce moment sont des adresses à des oiseaux. Enfin, pas forcément littéralement à des oiseaux, mais il y a toujours des oiseaux partout. Des merles, des canards, des oies sauvages, voilà.
Et Calling to the Forest, alors quand même, le thème, le sujet, le titre.
Mais le titre, il est, en fait, j'ai écrit ça en berçant ma fille pendant le confinement. Et donc, cette phrase, ce
des
refrain,
de nature.
Calling to the Forest, c'est venu tout de suite. Et je pense que c'est aussi mon goût pour les madrigaux du Moyen-Âge, pour des chansons très... toutes les folk songs aussi, quand on avait enregistré Cathy Berberian et Luciano Berio. Black is the color, ou Rossignolet du bois, Rossignolet sauvage... Moi, j'adore ces mélodies-là. Les mélodies vraiment moyenâgeuses, c'est des choses qui sont importantes. Et toute la poésie aussi du jardin, de l'oiseau, de la forêt. Et la forêt que j'appelais à l'époque, bon, quand on était en confinement, on n'avait pas trop accès à la nature. Hein, quand on était confiné en ville, moi, j'étais confinée dans une maison très agréable. Donc, je ne peux pas me plaindre. Mais je crois que la forêt, il s'agit aussi de la forêt des vivants, quoi, de la forêt des gens ensemble. Ouais. Et si on pouvait raisonner et fonctionner entre nous comme le font les arbres. Bon, enfin, les arbres, ils sont parfois en concurrence, hein, c'est dur. Mais voilà, bah, je pense qu'on se porterait mieux.
Oui, c'est une très jolie conclusion. est-ce que pour terminer quand même, on doit peut-être parler de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Donc, est-ce qu'il y a des dates? Quels sont les projets?
Il y a des beaux concerts, des très beaux concerts qui arrivent là.
Oui.
Je suis invitée à être artiste fil rouge, alors pas très loin d'ici, au Parc Floral.
Magnifique festival.
Festival. Donc tous les festivals du Parc Floral. Il y aura le festival Pestacle pour les enfants, où on va jouer donc L'île aux champs mêlés, le spectacle pour enfants, qui explore la créolisation des musiques, les mélanges comme ça, de toutes les musiques qui, moi, m'ont influencée. Et il y aura Le Secret avec Pierre-François Blanchard. On invite Patrick Messina à la clarinette. Mm-hmm. Et Tissé, le 21 juillet, juste avant Cécile McLaurin, qui est une amie, qui est une chanteuse que j'aime beaucoup, Cécile McLaurin,
j'aime
Salvant,
beaucoup aussi.
Qui a fait un dernier album, là, extraordinaire.
Grande pointure aussi.
Puis on sera aussi aux Nuits de Fourvière le 16 juillet, d'accord, avec Tissé aussi, pour présenter Tissé, en première partie de Archie Shep et Jason Moran, que je rejoindrai pour quelques chansons.
D'accord,
et
ça
au Jazz Marciac aussi, le 4 août, voilà, pour l'été. Puis je suis en tournée tout l'été avec Anne Passeo aussi, aux côtés d'Anne Passeo pour Chaman.
D'accord.
Et pas mal de concerts avec Archie Shep aussi. Voilà.
Ok, un bel été.
Un très bel été, très dense. Mais
après 2 ans de frustration pour tout le monde, là,
oui,
je pense que tu devrais...
C'est bon.
Tu devrais récupérer et être dans des bonnes ondes, là. Des belles dates, des beaux concerts, des beaux endroits aussi.
Très beaux endroits, des beaux publics en général aussi.
Voilà. Donc, on rappelle le nom de ce très, très bel album dont nous avons longuement discuté. Ça s'appelle Tissé. Alors, je conseille toujours. Bon, on peut avoir une idée en allant écouter sur les liens que je vais vous mettre sur le net. Mais c'est des albums comme ça. Il faut vraiment avoir les vrais albums et les écouter.
Les acheter sur Bandcamp, hein, qui est
en CD, en vinyle.
Une belle plateforme qui permet aux petits labels indépendants comme nous de distribuer leur production
et d'avoir
direct
un son,
producteur,
d'avoir
voilà,
un bon son
ou
aussi
à la Fnac, c'est encore des bons distributeurs, la Fnac, et nous on travaille avec un formidable distributeur en plus, l'autre distribution militant
bien,
donc voilà, on fait encore des disques aujourd'hui, c'est bien, faut continuer.
Oui, et puis je vais mettre le lien aussi pour celles et ceux qui nous écoutent vers ton site internet, pour que toutes celles et ceux qui ont envie de te voir sur scène puisse récupérer toutes les dates et venir te découvrir en live.
Merci Anne.
Merci beaucoup Marion. C'était un plaisir, comme ça a été un plaisir d'écouter et de réécouter cet album qui tourne en boucle chez moi. Bonne continuation, et moi aussi j'espère que je vais pouvoir te voir sur scène bientôt.
Bientôt.
Merci, au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sosuiteplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode, Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de Sous-Suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.